Ouvrons ensemble la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8. Évangile de Matthieu, chapitre 8, au verset 5. Comme Jésus était entré dans Capernaum, un centenier l'aborda et le supplia, disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Jésus lui dit « Moi, j'irai le guérir. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « Va !» et il va, à l'autre « Viens !» et il vient, et à mon serviteur « Fais cela !» et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. J'aimerais ensemble qu'on aille maintenant dans l'évangile de Luc au chapitre 7 pour lire exactement la même histoire, le même passage, mais qu'on puisse voir ensemble les différences qu'il y a. Il y a quelques détails intéressants à voir justement et qui sont complémentaires. En aucun cas, il y a des contradictions. Plusieurs cherchent à prouver que la Bible se contredit, mais il n'y a aucune contradiction dans la parole de Dieu. Elle est inhérente, sans erreur, elle est parfaite, elle restaure l'âme. J'aimerais qu'on voit juste ensemble, justement, le deuxième passage dont nous parle Luc, et comment il nous le décrit dans l'évangile de Luc, chapitre 7, au verset 1. Après avoir achevé tous ses discours au peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un centenier avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière pressante en disant « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus s'en allait avec eux et n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à une autorité supérieure, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, se tourna vers la foule qui le suivait et dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les envoyés trouvèrent en bonne santé le serviteur qui avait été malade. Amen. Voilà, ce soir, j'aimerais que l'on s'arrête sur ce passage pour voir ce que Dieu veut nous donner. Voyons, nous avons lu ensemble la foi de ce centenier, cette foi devant laquelle Jésus a été admiratif. C'est quand même interpellant et j'aimerais justement que l'on puisse s'arrêter pour voir et comprendre quelle est cette foi qu'avait ce centenier, quelle est la foi dont la parole de Dieu nous parle, quelle est la foi qui nous permet de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Et bien sûr, au travers de ce message, sur quoi nous nous arrêterons, c'est bien sûr sur l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions saisir la grâce de Dieu. Voyons donc ce centenier. ce centenier. Il faut comprendre déjà ce que c'est un centenier. Un centenier, peut-être aujourd'hui, vous ne savez pas ce que c'est. Ce n'est pas courant de nos jours. Autrefois, c'était le nom donné à ceux qui commandaient une troupe comprenant 100 hommes. Centenier, 100. Et c'était donc un officier de l'armée romaine. Ce n'était pas un juif, c'était un officier de l'armée romaine. Il n'était pas non plus religieux. C'était un soldat, un chef romain. Et nous avons lu donc que ce centenier avait un problème. Pour lui, un grave problème. Il avait un serviteur, d'autres versions nous disent un esclave, auquel il était attaché. Nous avons lu ensemble dans Luc 7 au verset 2 qui lui était très cher, un serviteur qui lui était très cher, qui était sur le point de mourir. Ce n'était pas un simple rhume, un simple mal de tête qu'il avait. Non, ce serviteur était sur le point de mourir. Il y avait une situation critique, alarmante, vraiment même, je dirais, affolante. Qu'est-ce que nous aurions fait à la place du centenier? Qu'est-ce que nous aurions fait? Où est-ce que nous serions allés chercher secours? Vers qui nous nous serions tournés à sa place? Lui s'est tourné vers Jésus-Christ. Pourtant, dans sa situation, je le redis, il n'y avait pas beaucoup d'espoir. Ce serviteur, il nous a dit qu'il était sur le point de mourir. Et je ne sais pas, je ne connais pas votre vie, je ne connais pas pour certains vraiment les contextes par lesquels vous pouvez passer, les situations de vie que vous pouvez avoir. Peut-être que tout va bien et tant mieux, béni soit le Seigneur, mais peut-être qu'il peut y avoir des choses qui vous sont très chères et qui sont dans votre vie justement à vous aussi qui sont sur le point de partir ou que vous êtes sur le point de perdre. Pour ce centenier, c'était son serviteur qui lui était très cher. Qu'est-ce qui vous est très cher? À quoi êtes-vous attaché? Ce centenier, c'était pour lui son serviteur. Nous l'avons lu, il lui était très cher. Et peut-être que oui, il y a des membres dans nos familles à qui nous sommes très attachés. Et c'est terrible, des épreuves lourdes par lesquelles parfois on peut passer quand justement on est sur le point de perdre un être cher. C'était la situation de ce centenier. Qu'est-ce qui vous est très cher? Peut-être vous êtes sur le point de perdre quelque chose de cher comme cela. Mais le Seigneur est celui qui veut justement nous apprendre dans l'épreuve, nous donner de comprendre ce qu'il veut pour nous, ce qu'il veut nous communiquer. Et ce centenier est allé vers la bonne personne, il s'est tourné vers la bonne personne, vers Jésus-Christ. Nous avons lu ensemble qu'il avait entendu parler de Jésus. Très certainement, il avait entendu parler des miracles qu'accomplissait Jésus-Christ. Très certainement qu'il avait entendu parler des nombreuses guérisons qu'avait accomplies Jésus-Christ durant son ministère terrestre, des prodiges qu'il avait opérés. Et donc, ce serviteur était touché dans son cœur. Très certainement, il se disait que dans cette situation, même si elle était critique, même si aux yeux des hommes, il y avait comme une impossibilité, il y avait dans son cœur un espoir. Il y avait dans son cœur quelque chose qui le poussait à croire que, eh bien, Jésus était la solution, que Jésus pouvait intervenir, pouvait agir dans sa situation. Et donc, il s'est tourné vers Jésus-Christ, mais pas d'une manière directe. Il n'a pas osé venir en personne, directement par lui-même vers Jésus-Christ. On voit vraiment une attitude d'humilité dans la vie de ce centenier. C'est vraiment un exemple. Il a eu vraiment une attitude d'humilité pour se tourner vers Jésus-Christ. Et il a envoyé, il nous a dit, à chaque fois, des personnes pour lui parler. Et la première fois, ça a été des anciens des Juifs. Il nous a dit, il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son serviteur. Quelques anciens des Juifs, qui étaient ces personnes? Ces anciens, quelques anciens des Juifs, c'était des personnes religieuses, des personnes qui avaient certaines positions sociales, religieuses, des personnes qui faisaient partie de la synagogue. C'était des Juifs qui... qui était censé connaître Dieu, qui était censé avoir foi en Dieu, qui était censé justement savoir comment s'approcher de Dieu et comment avoir cette foi pour recevoir ce que Dieu veut donner. Mais on voit un grand contraste entre la foi de ces hommes religieux qui vont venir vers Jésus, et la foi de ce centenier. On voit dans ce passage deux sortes de foi, à l'opposé l'une de l'autre, complètement différentes. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur ce point-là ce soir, qu'on puisse comprendre quelle est la foi vraiment qui nous permet de recevoir, quelle est la véritable foi, celle dont la parole de Dieu nous enseigne, qu'il nous faut avoir. Quelle est la foi? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? On entend la foi, c'est croire en Dieu. Est-ce que la foi, c'est que croire en Dieu? Vous pouvez réagir. Non, je vois. Non. La foi, ce n'est pas que croire en Dieu. On entend aussi que la foi, c'est faire confiance en Dieu. Est-ce que la foi, c'est faire que croire en Dieu et que confiance en Dieu? Non. Il manque encore quelques éléments. La foi véritable, elle nous est clairement enseignée. Et c'est justement, oui, de croire en Dieu. C'est aussi, oui, de placer sa confiance en lui. Mais c'est aussi de lui obéir. Là, il y a une foi complète, une foi réelle. Celle qui, justement, se tourne vers Dieu pour être à son écoute, pour écouter, recevoir ses enseignements, suivre son chemin. Et on voit cette foi-là qui a été démontrée dans la vie de ce centenier, qui est vraiment à l'opposé de la foi de ces hommes religieux. On le voit par leurs paroles, quand ils se sont tournés vers Jésus-Christ. Ils sont arrivés déjà d'une manière pressante, nous dit la Bible. Ils arrivèrent auprès de Jésus, le supplièrent d'une manière pressante en disant « Il est digne que tu lui accordes cela. Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Et on voit vraiment l'opposé dans la vie du centenier qui va dire « Je ne mérite pas, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. » Voilà l'attitude de ce centenier. Voilà la foi qu'il nous faut avoir pour recevoir. Si ce soir tu te crois digne de pouvoir recevoir, si ce soir tu te crois pouvoir mériter les bénédictions de Dieu, tu te trompes. Ce n'est pas là la foi qui te permettra de recevoir sa grâce, qui te permettra de recevoir son secours, quelle que soit ta situation, quels que soient tes besoins. C'était là l'erreur de ces hommes religieux. Et on voit ce verset dans la parole de Dieu qui nous enseigne, oui, qui nous enseigne que ce n'est pas par les œuvres que nous pouvons justement nous approcher de Dieu. Ce verset qui nous dit « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'était point par les œuvres. C'est pas parce que cet homme avait permis que la synagogue de Capernaum soit bâtie que Jésus-Christ est venu vers lui. Ce n'était pas du tout à cause de cela. Mais c'est justement parce qu'il a eu cette foi de réaliser qu'il n'était pas digne, qu'il ne méritait rien. Mais il avait vraiment cette foi, une foi de, se tourner vers Jésus-Christ et de le reconnaître comme ayant autorité. Et c'est pour cela qu'il va justement donner cette explication par la suite. On peut trouver cette explication hors de propos alors que pas du tout. Elle est vraiment justement la base de la foi. On voit donc cette explication donc de sa foi, il va pouvoir dire, voilà, appeler Jésus-Christ et lui dire « Je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, c'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller vers toi en personne, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri, car moi, et là il donne l'explication, moi qui suis soumis à une autorité supérieure, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « va » et il va, à l'autre « viens » et il vient, et à mon serviteur « fais cela » et il le fait. » Pourquoi le centenier à ce moment-là dit cette explication? sur l'autorité, cette soumission à l'autorité. Eh bien, parce que c'était là justement sa manière de voir Jésus-Christ et de réaliser, de reconnaître l'autorité de Jésus-Christ. Et c'est là le fondement de la véritable foi, celle qui justement nous donne de pouvoir recevoir, oui, de reconnaître que Jésus-Christ a autorité, que Jésus-Christ a tout pouvoir. C'est ce qu'il a démontré en parlant justement que lui-même était en position d'autorité, que lui-même représentait l'autorité. Il était chef de l'armée, il représentait l'autorité, mais en même temps il était sous des chefs lui aussi, il était sous certains responsables au-dessus de lui. Et il va démontrer par là et montrer que voilà, il voit Jésus-Christ de la même manière, étant celui qui a autorité et qui peut, par sa parole, d'un mot, apporter la guérison, apporter la vie, apporter la solution à une situation complètement désespérée. Et c'est là ce que Dieu est capable de faire encore aujourd'hui, c'est ce qu'il veut faire dans chacune de nos vies. Oui, si l'on a cette foi-là, justement, pour se tourner vers lui. La foi est capitale, la foi est vitale. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais sans cette foi-là, sans cette foi, justement, qui reconnaît qu'on n'est pas digne, qui reconnaît qu'on ne mérite rien, mais qui reconnaît l'autorité de Jésus, qui place sa foi et sa confiance en Jésus-Christ, qui accepte de recevoir les conseils, l'autorité de Dieu, l'autorité de Jésus-Christ sur sa vie. Oui, cet homme a reconnu l'autorité de Jésus-Christ. Il a reconnu que Jésus-Christ n'était pas un simple homme, qu'il n'était pas un homme comme tout le monde. Et il nous faut nous aussi reconnaître cela. Jésus-Christ n'est pas un homme comme tout le monde. Nous avons lu ensemble « Moi, j'irai le guérir ».« Moi, j'irai le guérir ». Voilà la parole de Dieu. Voilà la parole de Jésus-Christ. « Moi, j'irai le guérir ». Que disait Jésus en disant cela? C'est intéressant de voir que le verbe « guérir » dans cette parole « Moi, j'irai le guérir », ce verbe n'a pas la signification de guérir d'une maladie. Il n'a pas cette signification-là. Quand Jésus-Christ dit « Moi, j'irai le guérir », il ne parle pas de guérir d'une maladie. Quand on regarde le grec, ce mot signifie « prendre soin, servir ». On pourrait dire en quelque sorte que Jésus-Christ lui a dit « Moi, j'irai le servir ». « Moi, j'irai le servir ». Pourquoi Jésus-Christ a répondu de cette manière-là, alors que ce centenier était là à lui demander de secourir son serviteur, de le guérir, de le relever, de lui donner la vie? Pourquoi Jésus-Christ a dit « Moi, j'irai le servir ». Eh bien parce que c'est pour cela qu'il est venu. Il est venu pour servir et non pour être servi. Jésus-Christ qui est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est le Dieu vivant, Jésus-Christ est venu sur cette terre, Dieu s'est incarné en la personne de Jésus-Christ et est venu sur cette terre, a marché comme un simple homme et est venu non pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie pour chacun d'entre nous en rançon, comme nous le dit sa parole. La Bible nous dit, oui, lui dont la condition était celle de Dieu. Lui dont la condition était celle de Dieu. On trouve ce passage dans Philippiens chapitre 2, verset 6. Lui dont la condition était celle de Dieu. Il parlait de Jésus-Christ. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Une autre version nous dit, de ce même verset, le roi de tous, le roi de tous les êtres ici-bas, voulut naître en simple serviteur. Esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur, homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes en tout semblable à nous, humble et sans apparence. Dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. jusqu'à la mort sur la croix. Voilà ce que nous dit ce passage, qui nous donne de réaliser, oui, que Jésus-Christ est Dieu, mais qu'il est le roi de tous, le roi des rois. La Bible nous éclaire et nous montre, oui, que Jésus-Christ n'est pas comme tout le monde, qu'il est le Dieu vivant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce roi des rois qui est venu non pour être servi, mais pour servir, qui est venu humblement sur cette terre. Ce soir, réalisons l'autorité de Jésus-Christ, réalisons qui il est. Oui, réalisons qu'il a donné sa vie sur la croix pour chacun d'entre nous, qu'il a donné sa vie, qu'il a payé le prix pour que nous soyons sauvés, qu'il a pris sur lui notre condamnation, qu'il a pris sur lui nos péchés à la croix, lui le Saint, lui le Dieu vivant, lui qui n'avait commis aucun péché, aucune faute, lui qui est parfait, lui le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, est venu humblement sur cette terre, s'est humilié, a marché comme un simple homme, je le redis, a pris la forme d'un serviteur, d'un esclave. Moi, j'irai le guérir, moi, j'irai le servir. Voilà la parole de Dieu pour chacun d'entre nous aujourd'hui, ce soir. Moi, j'irai le servir, c'est pour nous servir que Jésus-Christ est venu, le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Il est venu pour que nous ayons la vie, nous qui étions comme ce serviteur, aux portes de la mort, nous qui étions ou qui sommes, si nous avons justement pas fait la paix avec Dieu, si nous ne sommes pas justement tournés vers lui par la foi, repentis de tous nos péchés, oui, nous pouvons être comme ce serviteur, en danger de mort. Jésus-Christ a donné sa vie, afin que nous ayons la vie, afin que nous recevions, par la grâce de Dieu, le pardon de nos péchés. Grâce à son immense amour, il a prouvé son amour à la croix pour chacun d'entre nous. Il l'a démontré, il l'a prouvé. Alors ce soir, réalisons ce que Dieu veut nous donner. À cette heure, à ce moment, maintenant, à l'heure même, le serviteur fut guéri. Nous avons lu cela dans Matthieu 8, verset 13. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. » Nous voyons que le plus important pour Dieu, ce n'est pas spécialement d'avoir la foi pour recevoir la guérison, mais c'est d'avoir la foi pour recevoir le pardon de nos péchés. C'est d'avoir la foi, justement, pour lui obéir, la foi qui reconnaît l'autorité de Jésus, qui le laisse régner, la foi qui reconnaît Jésus tel qu'il est, tel que la parole de Dieu nous le présente. Le plus important, ce n'est pas la foi pour être guéri, mais la foi pour être sauvé. Et Dieu est celui qui veut justement ce soir, eh bien, bénir. Dieu est celui qui veut, oui, restaurer. Dieu est celui qui veut guérir. Dieu est celui qui veut agir dans les corps, mais bien davantage dans les cœurs. Parce qu'il y a des personnes, oui, qui peuvent saisir la guérison du corps, mais qui peuvent malheureusement passer à côté de cette foi qui sauve l'âme pour l'éternité. Et on voit ces personnes, ces juifs, c'est triste de voir des hommes religieux qui étaient censés connaître Dieu, qui étaient censés connaître sa parole, mais qui sont passés complètement à côté de cette foi vivante, réelle, cette foi qui sauve, qui était complètement aveuglée, alors que Dieu voulait justement pour eux aussi ce salut, alors que Dieu voulait aussi les éclairer, les bénir. Il est triste de voir cette parole de Jésus qui nous dit que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres, les fils du royaume. C'était ces personnes à qui était réservé le salut en premier. Il est question des Juifs. Il est dramatique et terrible de voir que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Alors bien entendu, pas tous les Juifs, mais ceux qui n'auront jamais et ceux qui n'auront pas accepté justement la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui seront passés à côté de cette foi et qui s'appuient non pas sur les œuvres, non pas sur les bonnes œuvres, non pas sur nos mérites, mais qui s'appuie seulement sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Oui, c'est cela qui permettra à tous ceux qui auront cette foi-là de vivre pour l'éternité dans le royaume des cieux, comme nous l'avons lu, à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà la grâce de Dieu, en présence de Dieu, en présence du roi des rois, du seigneur des seigneurs, et cela pour l'éternité. Saisissons ce soir la grâce de Dieu et posons-nous cette question, comment est ma foi? Quelle foi j'ai? Quelle sorte de foi j'ai? Comment je me tourne vers Dieu? Comment je m'approche de lui? Réalisons qu'il n'y a qu'une seule foi, une seule foi qui sauve, une seule foi qui nous donne le salut, une seule foi qui nous donne de recevoir la grâce de Dieu. C'est la foi, je le redis, dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et cette foi-là, oui, nous donne de recevoir, et bien davantage. Cette foi-là nous donne de recevoir, oui, la guérison des corps malades. Cette foi-là nous donne de recevoir la restauration, la libération des vies des cœurs. Cette foi-là nous donne de recevoir cette vie faite d'abondance de paix, d'abondance de joie. Cette foi nous donne de pouvoir, oui, recevoir de Dieu vraiment toutes ces bénédictions qui nous donnent d'être comblés tous les jours de notre vie, comptés de maintenant, à cette heure même, à l'heure même. Le serviteur fut guéri. Mais Jésus a pu dire à ce centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Amen. J'aimerais que l'on puisse prier pour terminer ces moments. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons de tout notre cœur et nous te rendons grâce parce que tu es celui qui nous parle. Encore ce soir, tu es celui qui veut nous accorder, Seigneur, ta grâce. Seigneur, tu es celui qui veut bénir, tu es celui qui veut, oui, parler, Seigneur, vraiment à tous ceux qui, c'est vrai, peuvent être dans une sorte d'illusion et d'erreur face à cette foi et face à ce chemin qui nous mène à toi. Tu es celui qui veut nous donner de marcher dans la vérité et de saisir ta grâce, ton secours, ton assistance. Tu ne refuses pas de bénir, mais tu nous appelles, oui, à venir à toi, à réaliser ton œuvre à la croix, et à l'accepter, à avoir, oui, foi en ton sacrifice, mais avoir cette foi aussi qui reconnaît que tu es celui qui est au-dessus de tout, qui règne, qui est le roi des rois, et qui est celui qui a tout pouvoir. Et Seigneur, ce soir, oui, nous voulons reconnaître ton autorité, et je te prie vraiment d'agir, d'intervenir encore dans les vies de chacun d'entre nous ici présents. Seigneur, tu connais les vies, les contextes, et tu vois tous ceux, Seigneur, qui peuvent être dans des difficultés. Je te demande ta grâce pour eux aussi. Tu es celui qui a tout pouvoir. À toi, rien n'est impossible. Tu es celui qui a guéri ce serviteur. Tu es celui qui lui a donné la vie alors qu'il était aux portes de la mort. Non, il n'y a rien qui te soit impossible. Tu n'es pas limité, et nous ne voulons pas te limiter, mais placer vraiment une foi pleine et entière en toi. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu veux donner, Seigneur, par grâce à chacun d'entre nous. À toi soit toute la gloire, Seigneur notre Dieu. Amen.